Joshua aussi, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre première réaction à la mort du chairman?
Je paierai mentor, quelqu'un qui m'a tout appris dans la politique et qui m'a appris à aimer ce pays. Donc, naturellement, je suis très triste, je suis affligé même, et j'essaye de trouver le courage pour affronter la situation.
Quel est le plus grand souvenir que vous garderez de lui?
Écoutez, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et dans les moments les plus difficiles, il arrivait à nous faire rire et il avait toujours des anecdotes qu'il nous racontait, que ce soit dans des avions entre deux capitales ou dans la voiture quand on faisait des trajets de 10 heures ou quand on devait marcher dans l'arrière-pays pendant des heures et des heures. Il arrivait à nous remonter le moral en faisant rire avec des blagues, avec des histoires drôles et même des fois avec des histoires de certains de nos camarades dont il se rappelait et des faits marquants et des faits très drôles dans notre parcours politique.
Et en bon Camerounais, il aimait le football.
Il aimait le football, il était président de club de football avant de s'engager, avant de mettre sur pied le Social Democratic Front. Il était le président de PWD de Bamenda, qui d'ailleurs était champion du Cameroun il y a 2 ans et qui l'a honoré avec le trophée du champion et qui est venu lui présenter ce trophée chez lui à domicile il y a juste 2 ans.
En fait, il aimait le contact, il aimait l'échange.
Il aimait les gens, il aimait le contact, il aimait le consensus. Il disait toujours qu'en politique, il ne faudrait pas que ton adversaire perde la face. Donc, il faut pouvoir avancer tout en considérant le fait qu'il n'est pas, en anglais, il disait toujours, ça ne doit jamais être de winner takes all. Ça devrait toujours être de telle façon que ceux qui sont en face ne perdent pas la face. Voilà. Donc, il aimait le contact. Je ne me rappelle pas d'un seul jour chez lui où il y a eu moins d'une trentaine de personnes qui déjeunait avec lui. Tout le monde à Bamenda savait que sa maison était ouverte et quand on passait autour de midi, il fallait absolument le rejoindre à table et il en faisait un cas tout particulier pour tous ceux qui ne voulaient pas le rejoindre à sa table. C'était aussi un fermier, donc il tuait entre 2 et 3 vaches par semaine pour pouvoir satisfaire la demande de tous ceux qui devaient manger chez lui. Donc c'était quelqu'un de jovial, quelqu'un de ouvert, qui aimait le contact, qui était un grand patriote, qui aimait sincèrement le Cameroun. Il l'a d'ailleurs démontré à 2 reprises. La première, c'est quand il aurait pu, après les élections de 92, aller vers une guerre civile. Tout le monde l'y poussait, y compris les cadres du SDF, voulaient absolument, et y compris les gouvernements comme celui d'Abacha au Nigeria, voulaient absolument que le Cameroun bascule vers une guerre civile. Et il a dit qu'il ne gouvernera pas le Cameroun sur le sang des Camerounais. Et la deuxième fois, c'est quand la sécession armée a démarré. Ils ont voulu que le SDF soit la branche politique de cette sécession, ce qu'il avait fermement refusé. Et ça nous a valu toutes les attaques sur sa personne. Il a été enlevé 2 fois par ces sécessionnistes. Et nous pensons que c'est ce qui a peut-être précipité son décès. Voilà.
Il disait qu'il ne faut pas mettre en place le système the winner takes all, il ne faut pas mettre en place le système où le vainqueur prend tout.
Tout à fait, parce que nous sommes en politique et il ne faudrait pas créer un système où votre adversaire perd sa face et puis ensuite ne peut plus discuter avec vous. Il disait toujours que nous avons des adversaires politiques et pas des ennemis.
Depuis 40 ans que Paul Biya est au pouvoir, John Fundi a été son plus grand adversaire. En 1992, il a été à 2 doigts de le battre. Quelle était sa force?
Écoutez, c'était quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui disait qu'il fallait travailler sur le terrain, qu'il fallait aller à la rencontre des Camerounais. C'est d'ailleurs depuis l'élection législative et municipale ce que le SDF fait avec beaucoup de succès. On l'a vu dernièrement lors des mobilisations pendant le mois de mai. Donc, cela veut dire que la formule marche toujours très bien jusqu'en 2023. C'est quelqu'un qui avait un franc-parler et qui réussissait à mobiliser les foules, à discuter avec elles sans parler français, c'est-à-dire que sa langue de communication, c'était le pidgin. Et les gens s'identifiaient à cela.
S'il avait appris le français, est-ce qu'il n'aurait pas eu un impact politique encore plus fort?
Je pense qu'il parlait français, mais il avait comme un point d'honneur de ne pas le parler parce qu'il le parlait avec beaucoup de fautes. Et il disait toujours qu'en général, au Cameroun, on oblige les anglophones de parler français. Alors lui, il va obliger les francophones à parler anglais. Je pense que ça a très bien marché.
En 1992, John Frundi arrive officiellement deuxième à la présidentielle avec 4 points de retard sur Paul Biya. Le SDF crie à la fraude. Est-ce que tout est de la faute à la triche ou est-ce que le SDF a manqué quelque chose à ce moment-là?
Écoutez, tous les acteurs du moment sont unanimes là-dessus, que John Frundi avait gagné. Donc, je pense que ce qui nous a manqué en ce moment-là, c'était, comme il le disait lui-même, on a gagné l'élection, mais on n'a pas su la sécuriser. Et donc, si vous me demandez ce qui nous a manqué, c'est les moyens de pouvoir sécuriser la victoire qu'on a eue dans les urnes. Mais je pense que tous les acteurs, y compris les chancelleries étrangères qui étaient sur place en 92, sont unanimes sur le fait qu'il était le vainqueur de cette élection.
Et sur le plan international, est-ce que la France de François Mitterrand a joué un rôle dans son échec à cette élection de 92?
Nous pensons que oui. Nous pensons que la France était un acteur essentiel pour nous pousser vers cet échec-là. Je pense que l'ambassadeur de France à l'époque au Cameroun est toujours un conseiller spécial du président de la République aujourd'hui. Cela démontre à merveille qu'il a fait un travail qui allait dans le sens des intérêts du président de la République à ce moment-là. La France a joué un rôle qui n'était pas le sien. Et donc, je pense que ça a arrangé un peu Paris de voir qu'en 92, un anglophone n'arrive pas à la tête de l'État du Cameroun.
À partir des années 2000, beaucoup, y compris dans le SDF, lui ont reproché de renoncer à la conquête du pouvoir et de se contenter de la place de numéro 1 de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais écoutez, je pense que John Frundi a toujours voulu conquérir le pouvoir et c'est pour cela qu'au moment où il s'est dit qu'il n'a plus l'âge pour cela ou il n'a plus la motivation nécessaire pour y aller, lui-même s'est mis de côté et a laissé la libre concurrence au sein de son parti. Il y a eu une élection dans un congrès où les délégués ont choisi le nouveau porte-flambeau du parti. Il a même exigé de ne pas être présent au niveau du congrès pour qu'on ne dise pas qu'il a pu influencer de quelque nature que ce soit le vote.
Depuis la montée du mouvement indépendantiste dans les deux provinces anglophones, est-ce que le SDF n'est pas coupé de la jeunesse du Nord-Ouest et du Sud-Ouest?
Écoutez, nous ne sommes pas coupés de la jeunesse du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous sommes coupés d'une certaine jeunesse qui croit qu'elle peut résoudre les problèmes du Cameroun à travers la violence et une lutte armée. Nous croyons fermement aux valeurs et aux vertus de la démocratie et donc nous sommes contre tous ceux qui prennent les armes pour pouvoir atteindre ce but. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas avec eux. Et donc, fort heureusement, c'est une infime minorité. Ce qui s'est passé, c'est que parce que le SDF a refusé d'être la branche politique de ce mouvement sécessionniste, ceux qui utilisent les armes les ont utilisées essentiellement contre le SDF et ont tout fait pour que le SDF ne puisse pas se présenter aux élections.
À la dernière présidentielle de 2018, vous n'êtes arrivé que quatrième. Est-ce que le SDF a encore un avenir politique?
Ben écoutez, vous répétez la même question parce que c'est les mêmes causes qui donnent les mêmes effets. Quand vous avez 800 000 électeurs qui sont privés du droit de vote et que c'est une élection où le vainqueur gagne avec 2 millions de voix et que les 800 000 électeurs qui sont privés de droit de vote viennent essentiellement de votre fief historique, ben vous avez les résultats que vous avez. Si vous prenez cela en compte, vous voyez très bien qu'on n'a pas beaucoup progressé, mais on n'a pas reculé. Et donc, le jour où notre base ne sera plus intimidé, où on ne va plus brûler des maisons parce qu'on est allé voter, on ne va plus tirer sur les femmes qui vont voter. Nous sommes convaincus que cette base-là va ressortir et on aura les voix qu'on n'a pas pu avoir pendant les deux dernières élections.
Joshua aussi, merci.